Bonsoir ou rebonsoir pour certains d'entre vous. On se retrouve donc pour un nouvel épisode des commissaires de course un peu particulier cette fois-ci, puisque l'émission de la deuxième émission de ce soir va être consacrée au Giro et à son parcours principalement et également l'étude des principaux favoris à suivre pour cette course. Voilà, pour nous accompagner ce soir, nous retrouvons de nouveau Greg.
Buonasera.
Buonasera, cher. Baptiste.
Ciao a tutti.
Théo.
Bonsoir, parce qu'on est en France.
Ah bah bravo.
Et enfin Charles.
Salut à tous, je suis content Théo que t'aies pas enchaîné sur de l'italien parce que je me sentais mal.
Oui, d'ailleurs, c'était difficile de trouver de nouveau une nouvelle phrase un peu différente sur laquelle enchaîner. Bon, eh bien écoutez, bon rebonsoir et bonsoir à vous chers commissaires. Plaisir de vous retrouver de nouveau pour cette émission particulière. Donc on va essayer d'être le plus synthétique possible. L'émission va se dérouler en trois temps. Tout d'abord, l'étude du parcours. Ensuite, nous mettrons en lumière les principaux favoris de cette édition. Et enfin, nous étudierons un peu plus en avant les chances françaises pour les étapes de ce Giro. Voilà. Écoute, je vais commencer par toi, Baptiste, parce que je sais que tu es assez au fait sur ce Giro. Tu as, comme moi, participé à l'élaboration de la petite présentation que nous avons faite sur le forum. Donc, tu connais assez bien le parcours.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les profils, au passage, si vous voulez suivre en même temps le...
Voilà, le lien est mis, je crois... dans la conversation ou en dessous dans la description.
Je viens de le mettre dans le chat sur YouTube, voilà. Voilà, là, vous pouvez le retrouver.
Voilà, là vous pourrez retrouver donc l'ensemble des étapes, des profils et également une petite description à chaque fois du parcours. Voilà, donc on peut dire globalement, avant de rentrer dans les détails, on a clairement un Giro divisé en deux. Pour commencer, Baptiste.
Oui, assez nettement, c'est vrai. Grosso modo, on a 10 premiers jours qui sont... Donc le départ est de Bologne, hein, mais on a 10 premiers jours qui sont une petite descente dans le sud, puis une remontée côté... Donc la descente est plutôt côté ouest et la remontée côté est de la péninsule. On ne descend pas très au sud, mais voilà. Mais grosso modo, on reste assez éloigné de la haute montagne. Et il y a les Apennins au milieu de l'Italie, mais ça reste des altitudes assez basses. Il n'y a pas d'arrivée au sommet, par exemple, comme parfois on a dans les 10 premiers jours du Giro, des arrivées sur, par exemple, le Montevergine, des trucs qu'on appelle un peu des montées plates, voilà, qui ne sont pas toujours très intéressantes d'ailleurs. Et à partir de la 12e étape, là, il y a un premier col dans les Alpes. La 13e étape, c'est la première grosse étape de montagne. Et grosso modo, jusqu'à l'arrivée, la 21e étape, qui est un chrono à Vérone, on a quasiment, pour le coup, que de la haute montagne avec deux grosses étapes dans les Alpes franco-italiennes. Puis, 3-4 étapes, on va dire, voire même 4 ou 5 plutôt d'ailleurs, dans les Dolomites. Donc voilà, un parcours, effectivement, quand on le prend dans son ensemble, qui est coupé en deux comme ça.
Et donc on va rentrer un peu plus en détail donc dans ce parcours, peut-être voilà, le diviser en trois temps, semaine par semaine, ou faire la pause après les journées de repos. Charles, on peut dire déjà que ce Giro commence fort. Hein. Là, nous avons sur la vidéo le profil du prologue. C'est un sacré prologue.
Ouais, le prologue à Bologne s'annonce un peu compliqué. Il sera long de 8,2 km et on aura une montée, si je ne me trompe pas.
Tous les commissaires sont d'accord pour dire que voilà, celui qui prendra le maillot rose au soir du prologue sera probablement aussi un des favoris du classement général. C'est aussi ton avis, Greg?
Oui, bah, probablement, vu les pentes difficiles, à mon avis, vu les pourcentages, hein, bah, c'est maximum, je crois, 12-13%. Même 16%, je vois sur le profil. Donc, je pense que forcément, ce sera quelqu'un de costaud. Après, leader pour général ou pas. Et ce qui sera intéressant, après, c'est la stratégie pour garder ou non le maillot dans les étapes qui suivent, qui sont, alors, pour sprinter ou non, selon, mais qui laissent la chance à d'autres profils de coureurs.
Voilà, bon, bah écoutez, effectivement, on sait que derrière des profils du Giro, parfois, on n'a pas toutes les informations et qu'il peut y avoir des étapes un peu piégeuses ou peut-être un peu avec des profils trompeurs. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en repérer peut-être une, Théo, par exemple.
Ah oui, il y a une étape qui me plaît pas mal et c'est l'étape que tu es en train de montrer, c'est la sixième étape. Donc c'est toujours dans le début de Giro, il n'y a pas des grandes explications qui vont avoir lieu, mais ce qui me plaît dans cette étape, c'est le final où après une montée bien dure, assez plate mais bien dure, ça va pas arrêter de monter, de redescendre. Et surtout dans une configuration de course, on risque d'avoir un maillot rose qui n'a pas forcément intérêt à défendre son maillot rose, si c'est un gros leader qui l'a pris. On peut voir voilà, des attaquants aller au bout.
Ouais. Charles, qu'est-ce que t'en penses toi de, allez, de globalement cette première semaine dans son ensemble?
Je pense qu'elle est un peu plus piégeuse qu'elle en a l'air. Sur les profils, on a l'impression que ça va être assez simple, mais faudra pas se laisser piéger. Tu vois, la deuxième étape, je pense pas que les sprinteurs vont passer. Si jamais ça bagarre, ça peut être compliqué. Faudra voir aussi les conditions météo. La sixième, vous en avez parlé. La quatrième, ça sera aussi un homme fort qui va s'imposer. Je pense que si un leader fait l'erreur de concentrer son vrai gros pic de forme sur la fin de troisième semaine, il pourrait faire une grave erreur et le payer très très cher au début en perdant du temps précieux, je pense. Surtout qu'il y a des bonifications, si je ne me trompe pas, d'ici ces 4, donc ça pourrait aussi
C'est ça.
avoir son importance. Et traîner en fin de groupe, même sans prendre de cassure, on pourrait vite se retrouver loin. On l'a vu avec Yates l'an passé, ça peut être intéressant de grappiller à droite à gauche, quoi.
Baptiste, c'est aussi ton avis?
Oui, et je trouve que c'était une première semaine qui est vraiment une semaine assez piège pour plusieurs raisons et où des coureurs, disons des favoris pour la victoire finale, qui la prendraient un peu trop à la légère, qui seraient peut-être pas habitués à la façon dont un Giro se court, pourraient en être surpris. Il y a plusieurs profils, Charles en a un peu parlé, qui effectivement voilà, cachent des choses et on n'a pas l'impression comme ça, mais en fait, c'est des jours qui vont compter. Je pense il y a quand même quelques arrivées pour Puncher, hein. Il y a la quatrième étape à Frascati qui est un gros. Il y a les deux derniers kilomètres sont à 4,5%. Il y a l'arrivée à l'Aquila. On sait qu'à l'Aquila, c'est toujours les Punchers aussi qui gagnent. C'est une ville perchée. Là, le dernier kilomètre est à 7-6%. Et il y a une étape aussi que moi je trouve très belle, la huitième étape, qui est la plus longue de ce Giro avec 239 km quand même, hein. Et en fait, elle paraît presque plate sur le profil, mais en fait, les 25 derniers kilomètres, c'est sur un promontoire en bord de mer, un parc naturel. Et en fait, ce n'est que de la montée et de la descente, jamais très longue, et sur une route qui n'est jamais droite aussi. Et l'arrivée est au bout d'une grande descente, pareil, en virage. Et c'est absolument impossible qu'il n'y ait pas un peloton qui s'étire et qui casse sur des routes pareilles. Donc voilà, c'est vraiment un des endroits où on peut perdre du temps, où on peut, si on n'est pas attentif, il laissait des plumes et voilà, c'est vraiment des pièges types du Giro. Il y a un autre truc aussi d'ailleurs qui est très important cette semaine-là. Je parlais de cette huitième étape qui est la plus longue avec 239 km.
Oui, la longueur des étapes
La troisième
globalement.
étape fait 220 km, la quatrième en fait 235, la sixième en fait 238 et la huitième en fait 239.
On n'a
C'est
aucune étape
très
en
long.
dessous de 200 km de toute façon sur la première semaine. Aucune.
Voilà.
C'est
C'est très
rare.
très long, c'est très, ça va peser dans les jambes et même s'il n'y a pas de la haute montagne dans ces 10 premiers jours de course, ça fera forcément une différence ces kilomètres-là. C'est vraiment pas anodin.
Oui. Alors c'est vrai que l'étape de Pesaro, hein, elle a l'air de rien comme ça quand on regarde vite fait le profil, mais c'est vrai que ça pourrait sourire à, on va dire, à un coureur typé un peu flandrien finalement d'une certaine façon. Hein, alors qu'au départ on pourrait croire qu'effectivement une étape comme ça doit se terminer en sprint. Ce sera probablement pas le cas comme tu l'as dit. Globalement, quel est votre avis d'ailleurs sur finalement cette première semaine, prologue inclus, enfin voilà, qu'est-ce que vous imaginez comme type de scénario? Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Qu'est-ce que vous pensez de ces étapes proposées pour cette première semaine? On va commencer par Greg.
Bah, peut-être qu'il manque une étape un petit peu plus difficile, même si on a vu l'année dernière, les premières étapes de montagne sur le Giro, c'est pas forcément un grand spectacle. Mais après, c'est toujours les coureurs qui font la course, hein. Là, il y a de quoi, hein, pour à la fois les punchers, pour les leaders qui voudraient aller chercher les bonifs pour, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre un petit peu d'avance. Il y a de quoi faire. Après, voilà, c'est comme on dit toujours, c'est les coureurs qui vont faire la course, mais il y a de quoi faire pour essayer d'un peu dynamiter la course. Il y aura quelques pourcentages pas trop éloignés de l'arrivée. Quelques routes un peu compliquées, donc pourquoi pas un petit peu plus de spectacle et pas enfin, la caricature d'une semaine pour un sprinter. On est quand même loin de ça avec ce parcours du Giro.
D'accord. Charles, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que c'est déjà une semaine où certaines choses peuvent se décanter finalement?
Ouais, bah en fait, pour moi, les choses vont pas se décanter, ça se jouera à coup de seconde, je pense, mais pour moi, la clé de l'équation, ça va être d'avoir un bon équilibre, en fait, en se préserver assez pour pas flinguer toutes ses cartouches en vue de cette fin de Giro qui s'annonce terrible, et être assez bien placé pour ne pas perdre un temps précieux, justement, sur ses bonifs, sur ses cassures. Baptiste, il a cité l'étape de l'Aquila, je pense que c'est un exemple parfait où on peut vite faire perdre 10-20 secondes, pareil sur la 8e. Et quelque chose qui me marque aussi, c'est, vous l'avez dit, c'est que les étapes sont super longues. Et je pense qu'à l'approche du chrono de Saint-Marin, les organismes vont déjà être usés. Et on va avoir un chrono dur de 35 bornes pour enchaîner. Donc je pense qu'on aura des coureurs rincés déjà le 20 mai lors de la première journée de repos.
Pour reprendre la formule un peu connue, éculée, c'est que voilà, on sait qu'il y a des étapes où un tour peut se gagner, et on va dire les étapes de la première semaine, c'est les étapes où un tour peut se perdre, principalement. Pour résumer, hein, vraiment grossièrement. Bah, écoutez, est-ce qu'on peut-être passer à la semaine suivante, qui est
Justement, peut-être sur le contre-la-montre,
oui.
enfin, je sais pas si j'en ai
Oui,
un peu
oui, oui.
parlé, mais c'est un contre-montre voilà, qui est pas facile avec de beaux pourcentages. Hein, et enfin, il fait quoi 34 km, on part de en altitude, c'est quasiment, on arrive à 648, je crois, ou 550. Donc, c'est quand même une belle petite pente et c'est pas. Voilà. Hein, les grimpeurs ne seront pas si désavantagés que ça par rapport aux rouleurs. Il faudra vraiment être complet pour ne pas perdre trop de temps dans ce contre-la-montre.
Globalement, si on reprend d'ailleurs entre le prologue et le contre-la-montre de Saint-Marin, on a du kilométrage contre-la-montre qui est effectivement favorable plutôt à des hommes du classement général qu'à des vrais spécialistes du contre-la-montre. Hein. Ce n'est pas des contre-la-montre pour des Tony Martin ou des Ghana.
Des Tobias Ludvigsson.
Ni des Tobias Ullison, voilà. Par contre, on devrait retrouver aussi. Bah, tiens, Théo, puisque tu as pris la parole, est-ce que tu penses qu'on devrait retrouver sur ce contre-la-montre Saint-Marin, pareil, ceux qui joueront les places du classement général? Et si par contre, parmi ceux-là, il y en a qui perdent beaucoup de temps, ce sera déjà un gros coup dur?
Oui, clairement, parce que bon, si on regarde un peu rapide, les profils des contre-la-montre, ils sont souvent assez spéciaux parce que la distance est raccourcie, mais c'est quand même la montée vers Saint-Marin est quand même assez dure et surtout elle est irrégulière, elle est en deux parties. Au début, c'est à 6,5% de moyenne, mais c'est un peu un piège, c'est très irrégulier. Donc c'est pour des coureurs qui ont l'habitude de l'effort solitaire, il va falloir se gérer très bien. Et je vois pas du tout un outsider, enfin, on peut penser à Folliforoff une année l'emporter sur cette étape.
Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres étapes là au début de cette deuxième semaine qui vous ont marqué avant qu'on arrive au plat de résistance, on va dire, Baptiste?
Bah non, donc le chrono, en fait, pour un peu resituer, hein, le chrono de Saint-Marin, il a lieu le dimanche, c'est la 9e étape. Après, donc le lundi, c'est le jour de repos. Et après le jour de repos, on attaque le mardi et le mercredi avec deux étapes toutes plates dans la basse vallée du Pô, quoi, le long de l'ancienne Via Emilia. Donc c'est vraiment deux étapes, on ne peut plus plates, qui dépassent pas les 50 mètres d'altitude. Voilà, ça va être deux sprints royaux. heureusement pour les sprinters, parce qu'à mon avis, ils n'auront pas forcément tant d'occasions que ça en première semaine. Et après, donc, bah, voilà, effectivement, à partir du jeudi, on entre dans les Alpes, et du jeudi au samedi, puisqu'après le dimanche, c'est une étape un peu plus, un peu spéciale.
Ouais, et là, bon, on va commencer à y rentrer de plein pied. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce premier triptyque proposé globalement pour une première approche de la haute montagne? On y va en fait un peu progressivement, il me semble. Charles, il y a des étapes toi que tu as noté, que tu penses qu'ils vont être décisives déjà dès cette deuxième semaine?
Ouais, je pense, bah, tu l'as dit, on y va progressivement. J'imagine qu'on aura peut-être soit des baroudeurs le jeudi, soit un gros groupe qui joue la gagne. Et ensuite, on a cette étape de Pinerolo, une longue montée, je crois, dont le pourcentage n'est pas trop élevé, si je ne me trompe pas, c'est 20,3 km à 5,9%. Donc, il ne pourrait pas y avoir de gros écarts, mais ensuite, ça se complique un peu le samedi, je
non, c'est
crois.
Pas
Pinerolo,
hein, ça c'est non. L'étape d'avant. Hein. Pinerolo, c'est. Où il y a la montée de
Montoso.
Voilà, de Montoso qui est redoutable, mais loin. Elle est assez loin.
Ouais, je confonds les noms, j'étais sur Lago Cerro, en fait, j'étais parti sur. Sur une autre montée, et oui, je disais le samedi 25, donc on enchaîne sur la 14e étape qui là. Pourrait créer des écarts parce que je crois que le Colle San Carlo est assez compliqué, il n'est pas très long, mais il me semble que les pourcentages avoisinent les 10%. On l'a vu, c'était à Prica, je crois, au final, quand on a une montée un peu plate sur la fin et un col un peu dur avant, ça peut aussi créer des gros dégâts. Donc moi, je regarderai avec attention surtout cette 14e étape.
Surtout qu'il y a quand même un enchaînement de 4 cols, plus ou moins difficiles, hein, mais quand même 4 difficultés sur une étape qui fait seulement 131 km. Donc voilà, il y a clairement une étape sprint, comme on dit, hein, c'est un temps d'étape très court, et malgré tout, beaucoup d'ascensions, très peu de répit, donc ça risque effectivement, au lendemain d'une étape la veille, enfin de deux étapes des Alpes déjà avant, et au bout de deux semaines de course, c'est une étape qui risque de faire pas mal de dégâts.
Oui, ouais, voilà, ouais, donc le San Carlo avec une moyenne autour de 9-10%, hyper régulier, une bonne vacherie. Alors est-ce qu'on aurait eu déjà avant, je pense que on risque d'en avoir de partout lors de cette étape. C'est presque une étape que j'aurais aimé voir plus à la fin finalement, mais quel scénario ça peut ensuite déboucher.
Puis ce qui va faire mal, c'est que la 15e est dure, en plus elle est longue. La première partie est assez facile, mais ensuite on enchaîne, il y a 4-5 difficultés, je crois, dans les. Allez, 60-70 derniers kilomètres, et là, ça sera pas non plus une journée de répit, quand même.
Ouais, après, la 15e étape, ça peut ressembler à une étape qui va être semi-neutralisée, avec des barres, vu que ça suivra trois étapes vraiment très dures, peut-être que les favoris voudront lâcher, il y aura un statu quo, et c'est une étape qui reprend, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu me rattrapes, Baptiste, le parcours du Tour de Lombardie des dernières années, un petit peu édulcoré.
En bonne partie.
C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi pour la victoire d'étape, mais pas tellement pour le général, en fait. Je pense qu'il y aura deux courses en une. Il y aura très certainement effectivement une échappée qui se jouera la gagne à Côme sur ce final qui est grosso modo le même que le final du dernier Tour de Lombardie. Mais quand tu vois qu'une bosse comme le Civilio, qui est quand même 4 km à 9,6%, le sommet n'est qu'à 9 km de l'arrivée.
D'ailleurs, j'ai un doute en voyant le profil ouais. Qu'on vient de poster là sur la... sur la vidéo, parce que je l'ai récupéré de Vessen.
Non, c'est pas celui-là, il est pas bon. Ouais.
Voilà, ça, tout à fait. Donc ouais. Tu feras attention, Charles. Il faudra le réactualiser parce qu'il n'y a plus le San Fermo de la bataille en dernière difficulté. Il me semble que c'est le Civilio qui est le dernier.
Oui, c'est le Civilio. Ouais.
Qui est à 9 km de l'arrivée et voilà. Qui rapproche du coup la bosse de l'arrivée. Et j'ai du mal à croire qu'une bosse à 9% de 4 bornes à 9 bornes de l'arrivée, non. Sachant que le lendemain en plus est un jour de repos, donc on pourra récupérer. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de bagarre là-dedans.
Ouais, c'est pour ça que je disais semi-neutralisé. Je pense que ça va bagarrer à la fin, mais ça va pas non plus lancer la bagarre dès le Ghisavo et Nix Urbano.
Il y a un nom qui me vient à l'esprit, moi, quand je vois cette étape, c'est Nibali.
Oui, quand on voit on pense au Tour de Lombardie, forcément, il n'est jamais très loin. Très bien. Oui, c'est une étape effectivement qui s'inspire largement du parcours des derniers Tours de Lombardie. Alors, est-ce que on peut passer directement à la troisième semaine qui
Commence
s'annonce
fort.
voilà, c'est titanesque, hein, un gros programme. On peut dire il y a eu une étape qui est pratiquement à tapon, et hein, avec 226 km notamment. Enfin bon, voilà. Est-ce que qui veut présenter le programme de cette troisième semaine? Peut-être Baptiste, tu, hey, bon. Oh, tu as l'air assez partant aussi, assez chaud là, Greg. Il y a une étape qui te tient à cœur?
La première de lendemain de jour de repos, hein, ceux qui auront mal récupéré, ceux qui auront mal géré cette journée, ça commence d'entrée. Donc tu as dit 225 km. Ça commence d'entrée. Alors je ne sais pas si le col est répertorié, le premier col, pardon, est répertorié, mais ça commence en montant de suite. Ensuite le Gavia, le Mortirolo pour finir à Ponte di Legno. Mais ceux qui auront mal récupéré, enfin ceux qui gèrent mal leur journée de repos, et on sait que ça arrive parfois, hein, sur les grands tours, eh bien ils vont passer une très très mauvaise journée.
Oui.
Est-ce que c'est pour ça que Thibaut Pinot n'est pas là d'ailleurs, quand il a vu le profil de la 16e?
Ah,
Les lendemains de jour de repos de Pinot,
ça
quoi.
faisait longtemps.
Non, mais c'est vrai que
Ils vont être difficiles pour certains, c'est sûr, ce sera
une
difficile
étape
pour.
pareille au lendemain du deuxième jour de repos, c'est fou, quoi. Tout est fou dans cette étape. Le Gavia, c'est un col infini. C'est la Cima Coppi, donc c'est le point culminant du Giro. Le Mortirolo, c'est un col ultra dur. Il est encore succédé par donc un faux plat façon Aprica, comme un peu le décrivait Charles. Et moi, ce que je trouve fou aussi, c'est ce passage de demi. Il y a une descente. En fait, en haut du Gavia, on descend, on perd 2100 mètres d'altitude, quoi, en une descente qui dure
55,
45 km ou
oui,
55 km.
55 km, oui, c'est
C'est
ça.
complètement fou. C'est complètement fou.
Mais c'est vrai qu'elle est terrible cette étape. En plus, Greg, tu l'as dit, on commence par 24 km de montée. Donc les mecs qui seront pas bien, ils ont même pas l'occasion de chauffer les jambes pendant 10-20 bornes et de se relaxer, quoi. Gavia, 16 km à 8%. Enfin, le Mortirolo, le final type Aprica, 226 bornes. Enfin, c'est pour moi, c'est l'étape reine. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein.
Ah oui.
Ouais, c'est typiquement le genre de journée où la moitié de l'équipe Groupama peut passer par la fenêtre, quoi. Et la moitié encore, c'est un peu gentil.
On va pas tarder à aborder justement le deuxième chapitre, mais bon, celui des participations. Mais on y est presque. Oui, c'est voilà un gros programme là. Ce qui suit, bon, est à peu, presque une étape de transition finalement. Là, on peut dire coincé entre deux tranches de grosses montagnes bien dures. On a une étape presque plus facile. Enfin, toi, je me souviens, Baptiste, tu disais dans la description de cette étape que c'était finalement un tracé qui savait pas trop vraiment où il voulait aller.
Ouais, bah c'est un peu de la moyenne montagne. Il y a des ascensions, mais bon, qui sont pas non plus très ambitieuses, mais qui sont pas non plus anecdotiques. Ça sent clairement l'étape avec une longue échappée. Mais bon, il y a quand même moyen de faire quelque chose. La montée finale, c'est quand même 8% pendant 4 km et demi, donc c'est pas non plus rien. L'arrivée d'ailleurs, au passage, va être jugée sur le stade de biathlon d'Anterstelva. Ils vont passer devant les stands de tir, etc. Donc ça pourra être rigolo, quoi. C'est sympa de faire ça en plus sur un petit circuit de biathlon plutôt que sur un gros circuit de Formule 1 qui est un peu too much pour du vélo. Moi, je trouve c'est des circuits trop gros, quoi. Là, ça risque d'être plus à bonne dimension. Mais ouais, c'est vrai que c'est une étape qui risque quand même d'être escamotée. Et après, la 18e étape le lendemain est clairement une étape de plat. Ça, c'est la carotte pour les sprinteurs pour qu'ils essayent de tenir jusqu'au bout. C'est la seule étape dessinée pour eux dans les 8 derniers jours de course, quoi. Et voilà. Et après, 19e, 20e, 21e étape, c'est l'ultime triptyque. Et là, c'est là que, voilà, là que tout se joue.
Et voilà, là on a vraiment du lourd pour la fin. Bon, comme d'habitude, on a un souci, on va dire, de redistribuer les cartes et de ménager un suspense tout au long de la course. Est-ce que voilà, il y a une étape qui t'a tapé dans l'œil de manière particulière, peut-être, Charles?
Ouais, bah juste avant, je voulais juste. Enfin, je regardais d'un peu plus près là, les profils de la 17e et de la 18e. Enfin, ce qui marque vraiment dans le Giro, c'est qu'il n'y a pas du tout de répit, quoi. Tu l'as dit, Baptiste, ça devrait être un peu détente sur la 17e, mais on a quand même cette montée finale où forcément il y aura de la bagarre et certainement une course à deux niveaux. Et le lendemain, on se tape quand même 200. Enfin, on se tape. Les coureurs se tapent 220 km, pas nous. Donc, ce qui fait que, enfin, ça va encore une fois fatiguer, fatiguer, fatiguer des organismes qui auront déjà été mis à rude épreuve. Donc, Ça me paraît très compliqué, il n'y aura pas de récupération possible, et ensuite bah, on enchaîne le week-end final, il est encore une fois terrible, quoi. Il y a ce passo Mangame ou Mangame, je ne sais pas trop comment on
Passo
dit sur la
Mangame.
20e étape, qui pourrait être très difficile. J'ai plus les pourcentages en tête, mais j'avais noté que c'était quand même pas trop mal, 18,9 à 7,9%, donc ça encore, ça va être
Les
difficile.
derniers kilomètres
Avec.
sont les plus durs. Après, ça, il ne vaut pas le Finestre, hein, par exemple. Hein, pour donner un ordre, il est quand même un peu moins difficile, mais ça reste un col très long, autour de 7,5% à peu près.
Avec les 6 derniers kilomètres à 10%, donc c'est quand
Voilà.
même.
Les
En
derniers
dernière
kilomètres. C'est
semaine, ça
relativement loin
tape,
de
quoi.
l'arrivée quand même, hein, faut pas non plus.
Ouais.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est encore une étape où, avec une double montée finale intéressante aussi. On a un peu passé vite sur l'étape, parce que ça c'est la 20e étape, la veille de
Oui.
l'arrivée. L'étape d'avant, la 19e, c'est une course de côte, c'est vrai, et c'est pas un col très impressionnant, la montée finale, c'est 13 km à 6% en gros. Mais c'est aussi, donc bon, pour le Giro, c'est même un peu faiblard. Mais c'est aussi parfois sur ces pentes-là hein, qu'il y a des gros écarts, donc faut se méfier, parce que c'est là que les rollers grimpeurs, les Dumoulin par exemple, peuvent faire péter les watts comme jamais, quoi. Donc à la 19e étape, ça peut faire une différence. C'est typiquement le genre de montée finale où au 4e jour de course sur un Giro, ça sert à rien. Sur une 19e étape, c'est pas sûr que ça serve à rien.
Il me semble que l'an dernier, à la veille du Finistère et de la démonstration de Froome, on avait eu le premier semi-craquage de Yates sur une montée quand même assez facile, assez régulière, donc en sorte
Fratenez-vos, je crois.
d'antipastille. Ouais, c'est ça.
Oui, juste avant l'étape du Finestre, exactement.
Ouais,
Il y
puis
a
on
eu
l'a
Usain
dit, c'est un
Bolt,
Giro
ouais.
très dur, donc ce genre de montée, comme tu l'as dit, Baptiste, en fin de course, forcément, ça va laisser des traces. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est que bah, la dernière étape, c'est même pas un critérium comme
Et
on a
non,
l'habitude de le voir.
voilà,
C'est un
c'est ce que...
chrono où là, bah, physiquement, il faudra aussi être au niveau. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a justement des rouleurs qui sont parmi les principaux candidats à la victoire finale. Donc si on a 10 secondes, admettons, ou 20 secondes entre Roglic et Dumoulin, ça peut donner là aussi une belle bagarre, hein. Le dernier jour, quoi.
Oui, bah, ça va nous permettre d'arriver vers faire la transition pour pour les favoris. Mais globalement, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop? Vous n'avez pas peur que ce soit un peu trop ce programme final et que ça tétanise les coureurs justement sur la première partie de la course, sans compter, on va dire, le scénario de l'année dernière où on a vu un Yates brillant de mille feux sur les premières étapes pour finalement s'effondrer à la fin et donnant raison, d'une certaine manière, à ceux qui s'étaient plus économisés ensuite pour la suite. Voilà, est-ce que c'est pas une crainte réelle finalement de voir ce genre de choses? Je vais te demander, je vais te lancer d'abord là-dessus, Greg.
Bah, oui et non, mais en même temps, enfin, comme on l'a dit, finalement, il n'y a pas la montée finale ou la course de côte comme on a pu le voir l'année dernière avec l'Etna en début de Giro. Donc, ça sera des parcours piégeux. Il n'y aura pas voilà, cette attente. Nous, on n'aura pas cette attente-là, finalement, d'avoir le spectacle, la grande bagarre dès le début. Donc, je pense que le ressenti est différent. Là sera la piège où les leaders seront obligés d'être au taquet, d'être présents et certains peut-être de grappiller des secondes, mais il y a peut-être moins de. Voilà, il y a même, enfin, on a moins d'attentes que quand il y avait l'Etna au début de tour ou une montée, voilà, la course de côte traditionnelle qu'on a parfois en début de Giro.
Oui, c'est vrai. Et puis parfois sur ces attentes-là, on est déçu ensuite.
Voilà, c'est souvent les déceptions, c'est là, alors que bon, là, on est
D'accord.
sûr que
Charles,
on fera
tu penses
max.
pas non plus
Ouais,
que...
comme Greg, je trouve que c'est aussi une question d'attente. Et cette année, enfin après, chacun a ses choix là-dessus. Mais moi, j'attends pas une grande bagarre avant Lago Cerro, en fait. Donc, s'il se passe pas grand-chose avant, comme je l'ai dit, ce sera plutôt des histoires de placement, de bonification, d'attention. Et on n'attendra pas vraiment un gros truc avant,
Ce
comme
serait quand même
l'Etna.
presque une demi-surprise, non? Parce que finalement, lorsqu'on a vu, on voit les scénarios proposés par les courses et même sur les courses à étapes cette année pour l'instant, on peut dire que ça flingue de loin et assez souvent. Donc, on sait jamais. On pourrait être aussi agréablement surpris.
Ouais, moi je tiens quand même, je suis d'accord avec toi, Max, juste pour finir là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et par ailleurs, c'est pas très rationnel ce que je vais dire, mais ça reste le Giro, quoi. Et je vous promets qu'il se passe des trucs dans les 10 premiers jours, c'est impossible autrement parce qu'il se passe toujours un truc dans les 10 premiers jours au Giro. Il y a toujours un mec qui se pète la gueule, il y a toujours un mec qui prend 10 minutes alors qu'on s'y attendait pas, il y a toujours un mec qui sort du lot, alors il y a toujours des étapes qui se révèlent. Voilà, c'est pas une course, c'est pas un grand tour comme la Vuelta ou le Tour de France où on peut avoir 10 premiers jours ultra chiants et ce, une année sur deux. C'est jamais le cas au Tour d'Italie, franchement, quasiment. Donc je vois pas pourquoi ce serait le cas cette année.
Très bien. Bon, bah écoutez, je crois que là, pour c'est une bonne façon, à mon avis, pour conclure sur cette partie-là, sur la partie du parcours. Bon, on aurait peut-être pu insister davantage sur la dernière étape de Vérone, mais c'est vrai, comme tu l'as dit justement, Charles, c'est pas un critérium, et en plus, c'est pas de nouveau un contre-la-montre tout plat. Ce sera de nouveau pour des costauds. Alors, la participation cette année, sous réserve, encore une fois, parce qu'on est à environ une semaine du départ, et pour l'instant, les participants commencent à s'affiner peu à peu au gré des nouvelles, et puis certaines sont un peu mauvaises, puisqu'on a appris hier déjà que le leader désigné de la team Ineos, ancienne Sky, s'est fracturé, donc je crois que c'était la clavicule durant un entraînement reconnaissance d'étape, il me semble. Hein, c'était en Italie.
C'est ça, ouais.
Voilà. Donc Egan Bernal, donc ça fait déjà un gros favori en moins. C'est bon, voilà, un peu dommage. Il reste quand même de beaux noms. Hein. On a quand même encore une liste de favoris solide, mais qui a pris un petit coup. Voilà. Alors, je pense qu'on pourrait, pour l'instant en tout cas, sous réserve encore ça change. À mon avis, il y a quand même quelques noms qui ressortent de manière assez claire. Je vais commencer par toi, Charles. Est-ce qu'il y a les coureurs pour toi qui sont de manière évidente, qu'on peut citer parmi les favoris?
Moi, j'avais choisi Primoz Roglic comme favori du Tour d'Italie. Il a montré, enfin, pas besoin de faire l'historique, hein, il a montré depuis le début de la saison, et même depuis l'an dernier, qu'il était assez impérial sur les courses par étapes. Je pense que ça sera le plus costaud physiquement. Par contre, j'ai une crainte le concernant, c'est que il a tendance à être un peu foufou. Là, sur le Tour de Romandie, d'après CDS, il devait pas gagner la course, il devait pas jouer le général pour justement s'économiser un peu. Puis on a vu que s'économiser, ça faisait pas partie du vocabulaire de Primoz Roglic. Donc, tu vois, on parlait, Max, de ce début de course où il faudrait savoir trouver le bon équilibre. Moi, j'ai peur que Primoz Roglic, ça soit le Simon Yates de l'an passé, en fait. Et que même si c'est le plus fort physiquement, il finisse par s'écrouler en fin de troisième semaine.
On a vu qu'il avait été un peu trop généreux, peut-être, dans l'effort à la fin du Tour de France, parce qu'il a payé un peu le prix de tout ça sur le contre-la-montre final, où on pensait qu'il allait défendre brillamment le podium qu'il avait à ce moment-là. Et finalement, il a reculé derrière Chris Froome. Il était un peu décevant sur ce coup-là. Alors, peut-être qu'il s'était mis trop de pression. En tout cas, bon, il a déjà maintenant engrangé l'expérience pour un grand tour de 3 semaines. Baptiste.
Je crois même qu'il était blessé, oui, hein, sur le dernier chrono.
Il était blessé en plus? D'accord.
Mais en fait, oui, Roglic, il n'a pas participé au chrono des championnats du monde parce que pendant le tour, il s'est fait genre. C'est vraiment des souvenirs, il s'est fait une fracture quelconque et du coup, il pouvait pas avoir la position qu'il voulait.
Ah, c'est quelque possible. Chose comme ça. C'est possible. Bon, bah, écoutez, puisque tu as la parole, on va enchaîner avec toi maintenant.
Oui, bah, je suis trop. Moi j'ai choisi Tom Dumoulin, donc qui est un peu dans le même profil que Roglic, un roueur très fort. Et c'est marrant, Tom Dumoulin, avant chaque début de grand tour, que ce soit le Giro en dernier ou le Tour de France, on sait que c'est un grand favori, mais on n'y pense pas forcément parce qu'on le voit pas. Et Tom Dumoulin, ça fait il a couru Liège-Bastogne-Liège dimanche dernier, mais sinon on l'a pas vu depuis Milan-San Remo. Et en fait, il a l'habitude de faire ça. L'an dernier aussi, il s'est présenté au départ du Tour d'Italie avec très peu de courses. Il a même plus de références que l'an dernier, c'est pas terrible, mais enfin, il a fait dans le top 10 du Tour UAE, il a fait dans le top 10 de Tirreno Adriatico. Donc je pense que Tom Dumoulin, individuellement, il sera présent, le parcours, il peut lui convenir. Il risque de perdre un peu de temps dans la très haute montagne face à des purs grimpeurs comme Miguel Angel Lopez ou, enfin, on pensait à Egan Bernal, mais du coup, Egan Bernal ne sera pas là et ça doit bien le soulager. Mais sinon, individuellement, il n'aura pas de soucis. La question pour Tom Dumoulin, comme à chaque fois, c'est son équipe. Il pourra compter sur Sam Omen, qui est venu remplacer Kelderman, je crois, qui devait accompagner son équipe et qui est blessé. Et il y a des gars, par contre, avec lui, on ne sait pas vraiment si on peut compter sur lui. Robert Power, Chris Hamilton, Ryan Bacon, ça peut être très bon, comme ça peut être défaillant. Et d'ailleurs, je pense que Tom Dumoulin sent la pression entre son équipe. Il y a des journalistes qui lui posaient des questions et il répondait, il disait, oui, bah écoutez, les mecs, ils vont s'arracher la tronche pour moi pendant 3 semaines. Je vais pas dire qu'ils sont nazes, mais on sent que c'est pas idéal non plus, quoi.
Ouais. Avant d'enchaîner sur un autre coureur, vous trouvez que l'équipe de Roglic, par exemple, est plus présente plus de garanties que la Sunweb de Dumoulin pour ce Giro? Je vais continuer avec toi pour l'instant, Théo, avant d'enchaîner.
Oui, enfin très clairement, Jumbo-Visma, enfin depuis le début de l'année, on voit Lorenz de plus qui est peut-être le meilleur équipier en montagne, et voilà, un coureur comme de plus, je suis pas sûr que Dumoulin puisse compter dessus. Mais après, c'est vrai qu'aussi que la auto Jumbo, c'est des mecs, enfin Bowman, Sepp Kuss, c'est des mecs ou même Tooluk qui ont montré des très bonnes choses, mais qui sont encore un peu inconstants, quoi.
Et Sepp Kuss, en plus, il n'est pas dans l'état de forme de l'été dernier. Hein. Là-bas, c'était Robert Gesink qui était censé faire le Giro, mais il s'est blessé. Donc Kuss le remplace, pardon, un peu au pied levé. Et je suis pas sûr que physiquement, il soit au top en ce moment.
Enfin, je crois qu'il devait être leader en Californie, donc normalement, il aurait dû. Il monte quand même en pic de forme, quoi.
D'accord. Bon, il devrait quand même avoir, et pour vous, voilà, une équipe peut-être un peu plus forte que celle de Dumoulin autour de lui. En même temps, le Néerlandais a déjà montré qu'il pouvait très bien se débrouiller tout seul. Voilà, oui, Baptiste, toi, tu as envie de parler peut-être d'un autre coureur?
Oui, moi, mon favori pour le Giro, ce n'est ni Roglic ni Dumoulin, mais c'est Simon Yates, qui était déjà un peu la star hein, sur le Giro l'an dernier. On se souvient, hein, jusqu'à 5 jours de l'arrivée, il était en rose et il dominait de la course de la tête et des épaules. Et puis, ils étaient totalement écroulés quand la très haute montagne est arrivée. Alors, est-ce que c'était un feu follet? Est-ce qu'il avait trop couru au début? Ou est-ce qu'il avait touché ses limites? C'est quand même un coureur qui a déjà fait top 10 Tour de France avant, donc on savait qu'il était capable de faire top 10 sur 3 semaines et sur un grand tour, même en haute montagne. Et dès la Vuelta, en fin de saison dernière, il a rattrapé il a corrigé le tir et il a remporté le Tour d'Espagne quand même. C'est lui qui a gagné le dernier grand tour disputé par le peloton. Et voilà, et on arrive au Giro, une course qu'il connaît très bien, où je trouve, moi, le parcours lui va très bien aussi, même si c'est vrai qu'il y a de la très haute montagne. La première semaine, c'est comme l'an dernier, une semaine où il peut gratter des secondes, voire des minutes, comme il a su le faire l'an dernier. Je trouve que les contre-la-montre, certes, il y en a beaucoup, mais ils sont aussi plutôt bien dessinés pour lui, ils sont pas tout plats, il y a des bosses. Je vous rappelle qu'il a quand même gagné le chrono du dernier Paris-Nice.
Eh
Donc,
oui.
voilà, c'est vraiment, je trouve, un parcours qui lui convient assez bien. On en parle un peu moins que d'autres, il sera peut-être un peu moins surveillé. Il est très bien entouré par une superbe équipe de Mitchelton. Il y a notamment Jack Egg qui est là, il y a Chaves, il y a Lucas Hamilton qui est bien monté en puissance cette saison, il y a Mikel Nieve, et on attend encore un nom à confirmer. Donc voilà, il y a un beau collectif qu'on avait déjà d'ailleurs vu l'an dernier. Il avait été très bien entouré déjà l'an dernier sur le Giro. Et voilà, et depuis le début de saison, il court un peu à l'économie. Il n'a pas vraiment couru pour des classements généraux. À Paris-Nice, il a plutôt visé les étapes. Il a gagné le chrono et le lendemain, sur le col du Turini, il se fait battre par Lopez dans une partie de mano à mano dont on se souvient. À la Ruta del Sol, il faisait un peu ce qu'il voulait en février. Autour de Catalogne, il a roulé pour son frère. Voilà, on sent. Et depuis, il n'a pas couru. Et à mon avis, il prépare son affaire tranquillement dans son coin. Il va monter en puissance tranquille sur les 3 semaines. Et voilà, il a cette préscience un peu de la course qui sait que quand il peut gratter du temps, il en grattera. Voilà, j'y crois assez sur un Simon Yates qui peut être vraiment en démonstration en partie sur un parcours comme celui-là, mais sur 3 semaines.
Greg, toi, tu as noté quel coureur?
Eh ben, je vais vous vendre Miguel Angel Lopez. On attendait beaucoup d'un autre Colombien, Bernal, mais étant absent, je vais parler de lui. Donc, le risque pour lui, c'est de perdre beaucoup de temps sur les contre-la-montre. Et donc, pourquoi je vais le suivre? Parce que je pense que lui, il va avoir tout intérêt à mettre un peu le feu dans les étapes compliquées de montagne pour rattraper justement le temps perdu. Donc, je compte beaucoup sur lui pour animer un petit peu la course, pour attaquer fort dans les étapes très difficiles et pour bousculer un peu la hiérarchie, car face à Dumoulin, Roglic ou Yates, qui sont largement supérieurs en contre-la-montre, il va falloir qu'il secoue la course, qu'il renverse la table. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est le coureur à suivre pendant ces 3 semaines.
D'accord. C'est vrai qu'on entre dans une autre phase, on va dire, de l'année cycliste où peut-être les équipes qu'on a beaucoup vues pour l'instant, à savoir Quick-Step et Astana, vont peut-être un peu, entre guillemets, rentrer dans le rang. Mais bon, faut pas oublier, voilà, que Miguel Angel Lopez est dans une équipe qui a actuellement une dynamique très très positive. Bah, écoutez, je crois
Et
que
toi, Max, ton favori?
Oui, j'allais dire, je crois qu'on a fait tout le monde, donc il ne me reste plus qu'à moi. Ben, écoutez, voilà, il faut bien que il y ait un porte-parole du cyclisme italien, donc qui se porte pas toujours au mieux pour les classements généraux, en tout cas.
Oh.
Et oui, force est de le constater. À part voilà, à part Nibali, il n'y a pas grand monde. Et bien voilà, on retrouve encore une fois justement Nibali, année après année, qui lui porte toujours fièrement le flambeau des espoirs italiens, notamment sur les grands tours. Bon, les années commencent à forcément peser peu à peu, de plus en plus pour lui, mais on sait qu'il a l'expérience. Vous avez noté fort judicieusement qu'on avait un parcours en première semaine qui pouvait s'avérer piégeux. S'il y a bien quelqu'un qui connaît bien les pièges du Giro et qui sait normalement comment les éviter, c'est Nibali. Et s'il y a bien quelqu'un qui, normalement, dans son comportement, n'hésite pas, s'il peut enfoncer le clou et rejeter un adversaire des minutes derrière lui, c'est bien Nibali également, il a ce genre de caractère. Voilà, alors à voir s'il aura encore le niveau pour jouer les tout premiers rôles, mais ça paraît difficile de l'imaginer en tout cas en dehors du top 5, voire même mieux.
Et c'est vrai que c'est un parcours vraiment fait pour Nibali, je trouve.
Il y a une donnée importante concernant Nibali, moi je trouve, c'est le forfait de Bernal. Le fait qu'il n'y ait plus du coup ce grimpeur capable de faire très mal à tout le monde et de faire un peu exploser tout le monde. Nibali, il a pris de l'âge, donc il est forcément moins tranchant qu'il y a
Voilà.
3-4 ans.
Ce rôle ne
Et
reste
comme
plus
ça sera des
qu'à...
Dumoulin, des Roglic qui sont un peu plus des 4-4 entre guillemets, je pense que ça aussi, ça peut aider grandement Vincenzo Nibali.
Ça c'est sûr que ça va grandement changer la dynamique de la course, ne serait-ce que aussi pour l'équipe Ineos. Ben, d'ailleurs, ça va peut-être nous permettre de faire la transition vers les autres coureurs dont on voulait parler, hein. Il n'y a pas seulement que le classement généraux. Charles, je crois que justement tu voulais nous parler d'un coureur de cette équipe. Charles, je crois que nous l'avons perdu.
On l'a perdu.
On l'a perdu. Bon,
C'est bon, on a perdu le patron. Vas-y, on est libre.
tant pis pour la transition. Voilà le chat d'or. Eh bien, nous allons pouvoir parler enfin des Bardiani pendant 3 heures. C'était moi, comme je vous l'avais promis. Non, ben, on va enchaîner avec toi, Greg, à ce moment-là, en attendant peut-être que Charles se rappelle à nous. Voilà, il y avait peut-être donc, comme je disais, d'autres coureurs sur qui
À
on voulait
suivre.
à
Oui, ben
suivre.
moi. Je m'intéresse, enfin, je voulais parler de Bob Jungels, donc de la Quick Step, équipe qui gagne beaucoup.
Ao. Ao. J'ai plus personne là. Allô?
Max?
Allô Max?
Me revoici.
Ah, on l'entend souffler.
Ah, du coup, normalement, on nous entend de nouveau sur YouTube.
Désolé, hein, c'est encore un bug de Skype. Ça arrive de manière un peu intempestive ces derniers
Mais pas
temps.
de
Nous sommes
soucis,
de
c'est bon.
retour sur le live, donc on peut reprendre l'émission où on l'a
Voilà.
laissée.
Où est-ce qu'on s'était
C'est-à-dire, perdu, du coup?
bah
À
moi
Charles, du coup.
je voulais te lancer sur la team Ineos et en parlant des coureurs qui ne jouent pas forcément au classement général ou en tout cas qui seront pas forcément les tout favoris, mais qui pourraient quand même s'illustrer. Il me semble que donc, tu avais un coureur en tête, Charles.
Ah ouais, j'avais un coureur en tête. Désolé pour la répétition, parce que je crois que je vous ai perdu un petit peu avant. Donc ouais, j'avais un coureur en tête, moi, c'était Pavel Sivakov, en fait. On parlait du forfait de Bernal, et je crois que Pavel peut bénéficier justement de cette absence. Il sort d'un très bon Tour des Alpes. Alors bien sûr, j'y crois pas du tout pour un top 5 ou quelque chose comme ça, mais je le vois bien être capable de faire entre 8 et 12, être capable de s'illustrer. Avec Tao, ils ont fait un très beau duo. En plus, on voit qu'ils s'entendent bien les deux. Donc, ouais, j'y crois pas mal en fait en ces deux-là. Je les crois capables de faire quelque chose d'intéressant sur ce Giro. Pourquoi pas remporter une étape et faire un bon classement général pour l'un des deux.
Oui, parce que l'absence de Bernal redistribue complètement les cartes au sein de l'équipe. Et on sait que lorsqu'elle n'a pas un leader désigné pour le général, elle peut courir de manière tout à fait différente.
Et à voir qui remplacera déjà Bernal. Et j'ai lu aussi que Moscon était incertain, donc ça risque de rebattre les cartes. Alors probablement il y aura Sosa qui rentrera, mais après, enfin on en discutait sur le forum, est-ce qu'ils vont réussir à convaincre Geraint Thomas de s'aligner sur le Giro? Ça m'étonnerait qu'ils aient. Ça reste une possibilité parce que ça change beaucoup de choses. Bon, Bernal était quand même un grand favori.
En effet. Bien, alors du coup, on va reprendre, on va peut-être continuer à ce moment-là avec toi, parce que je crois pas, Greg, que du coup les auditeurs aient entendu la suite.
Ah, pourtant c'est magnifique ce que j'ai dit, hein, vous avez tout loupé. Hein. Alors là, c'était génial, j'ai été très beau, mais tant mieux. Bon, donc je voulais parler de Bob Jungels.
Voilà.
Voilà, donc de la Quick Step, hein, équipe qui gagne toujours. Alors c'est pas compliqué, hein, si on veut citer un coureur qui marche, on va citer un Quick Step. Il y a des chances qu'il gagne. Alors évidemment, c'est pas pour le général non plus, car en haute montagne, dans les très hautes montagnes, plutôt pour le Giro, ça semble compliqué pour lui. Mais à la fois, il est bon rouleur. Dans les étapes difficiles, enfin, il peut aussi tirer son épingle du jeu. Donc, pas pour la très haute montagne, mais pour les autres étapes. Je pense qu'il va perdre du temps assez rapidement. Enfin, voilà, dans la haute montagne, mais après, il sera dangereux parce que c'est un type de coureur aussi assez offensif. Donc, il peut tirer son épingle du jeu sur quelques étapes.
Il a déjà fait top 10 du Giro, hein, Jungels,
Oui.
donc il faut se méfier quand même.
Comme il n'a pas la pancarte, il se permet aussi d'être assez offensif et
Oui.
ça lui réussit quand même de temps en temps. Hein, donc on
Et
l'a
la
déjà vu
première
sur les
semaine
classiques.
pourrait lui donner des idées aussi.
Aussi, oui, peut très bien prendre le rose pendant
Tout à
quelques
fait.
temps.
Voilà. On va continuer. Théo?
Bah oui, moi je voulais parler d'un coureur d'une nation en plein déclin, Fausto Masnada. Et c'est un peu un coureur emblème pour toute l'équipe Androni. Tu parlais du risque de s'ennuyer en première semaine, Max, mais je pense que justement, grâce à ce genre d'équipe et à ce genre de coureur, on va pas s'ennuyer parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un coureur pour jouer le classement général. Même si Mattia Cattaneo était pas mal au Tour des Alpes, ils vont aller dans des échappées pour essayer de gagner ou lancer des coups de loin sur la fin des étapes. Et Masnada, typiquement pour l'étape qui reprend le parcours du Tour de Lombardie, la 15e étape, c'est typiquement le genre de coureur qui, dans une échappée, peut sortir tout le monde de sa roue et aller gagner. Il avait gagné, je crois, si je dis pas de bêtises, le Tour du Lombardie Junior, le Piccolo Giro di Lombardia. Donc, en plus, il est en confiance, il a fait un très bon Tour des Alpes. Cattaneo aussi a fait un très bon Tour des Alpes. Et de manière générale, l'équipe Androni, même si elle s'est fait piquer ces dernières années, ses plus grands coureurs, elle est toujours en réussite. Déjà 12 victoires cette année. Donc, en plus, ils peuvent jouer sur plusieurs tableaux parce qu'ils ont aussi des gars rapides dans des petits groupes comme Andrea Vandramme. Donc voilà, Masnada est
Elle a dit.
plus largement Androni. C'est une équipe qu'on va voir, je pense, devant. Parmi les équipes Conti Pro, c'est peut-être même la meilleure.
Oui, ils ont un effectif solide et équilibré. Je pense qu'effectivement, on devrait voir le maillot d'Androni souvent en échappée quand les étapes s'y prêteront, c'est-à-dire qu'il y a un peu de relief. Et après, pour les eaux plus plates, ils risquent de jouer aussi la carte de leur sprinter, que ce soit Vendramé ou surtout Belletti.
Et Gavadi.
Et Gavazzi, voilà. Donc oui,
Ouais.
ils ont une équipe voilà, qui effectivement, sur le papier, se montre comme sûrement la plus solide des équipes Conti Pro, je pense. Très bien. Alors nous en étions où? Je crois que Baptiste, tu n'as pas encore eu voix au chapitre.
Mais puisque toi tu voulais pas parler de la Bardiani justement, puisqu'on est
Bah,
sur les Conti Pro italiennes.
je peux faire la transition, effectivement. Alors la Bardiani, voilà, Bardiani, c'est pas tout à fait le même niveau, hein. On sait que c'est une équipe qui a, bah, elle s'est fait aussi beaucoup piller ces dernières années, mais contrairement à Androni, n'a jamais réussi vraiment à renouveler son effectif. Donc ben ça baisse peu à peu. Ils continuent à être invités sur le Giro. L'année dernière, ils traînaient un peu leur peine. Heureusement, ils avaient un Giulio Ciccone qui était là quand même pour montrer un peu le maillot. Cette année, on les a vus arriver sans lui, et donc du coup, ça faisait commencer à vraiment faire peur quand on voyait les premiers résultats de l'année arriver. Ça devenait presque un gimmick sur le forum de se moquer des résultats de la Bardiani, hein, tout en les prenant un peu en peine aussi. Mais voilà, c'était pas brillant. Mais ils ont commencé à montrer un peu le bout du nez sur le Tour du Trentin, notamment avec un jeune coureur, donc classe 95. Qui avait montré des belles choses déjà chez les espoirs, sans être dans les tout meilleurs, mais toujours solide, Giovanni Corboni. Et je pense qu'il pourrait un peu avoir le rôle de, ben, de voilà, que pourrait avoir Masnada dans l'équipe Androni, quelqu'un qui pourrait jouer voilà, les petits coups sur des étapes comme ça, de moyenne montagne, où il aura le droit d'avoir un ticket de sortie. Je pense que c'est quelqu'un qu'on verra souvent justement avec un Masnada ou un Cataneo à l'avant. Voilà, à voir si après ça leur réussit, ça ferait du bien à l'équipe, mais ce serait pas gagné. Voilà, au suivant, je sais plus qui restait donc du coup.
Il y a Charles qui veut.
Ah.
Ouais, j'y pensais tout à coup très naïvement. C'est vrai que la Bardiani se sont fait piquer des coureurs, mais aussi par les contrôleurs antidopage, il me semble, il y a quelque temps.
Oui, bah bon, oui, ce
Le
que je voulais dire,
passé, le passé.
c'est que quand je voulais dire malgré tout, ils sont toujours sur le Giro, ça faisait partie du malgré tout. J'incluais et le niveau de l'équipe et puis quelques affaires. Enfin bon, les affaires commencent maintenant à dater. Si on fait le tour de toutes les équipes qui ont eu des cas bizarres depuis 2015, je pense que on aurait déjà pas mal. Bien, oui, Baptiste, pardon.
Oui, moi mon homme à suivre pour parler un peu d'eux quand même, hein, ce sera Elia Viviani. Elia Viviani qui l'an dernier a remporté 4 étapes sur le Giro et le maillot de classement par points, et qui sera à nouveau évidemment l'homme à battre. C'est un des deux, trois meilleurs sprinteurs du monde aujourd'hui. Il est italien évidemment, donc il sera à domicile et il aura envie de très bien faire. Et il y a un assez beau plateau, hein, cette année sur le Giro pour les sprints. Malheureusement pour les sprinteurs, il n'y aura pas forcément 1000 étapes pour eux. Hein, on l'a dit, même en troisième semaine, il y a une seule étape pour eux. En première semaine, il y a plusieurs étapes qui ont l'air d'être pour eux, qui ne le seront peut-être pas forcément. Heureusement qu'il y a les 10 et 11e étapes, là, toutes plates, où là, c'est sûr que ce sera des sprints massifs. Donc, ouais, face à Viviani, on a quand même quelques très grands sprinteurs. Il y a Gaviria, il y a Arnaud Démare, il y a Caleb Ewan, il y a Pascal Ackermann également qui est là. Après, il y a évidemment tous les Italiens ultra habitués au Giro, Modolo, Gavazzi, Nizzolo, Belletti, Marescot. Voilà, mais il y en a d'autres encore, hein. Il y a Jens Debuscherer, il y a Matteo Moschetti, le néo-pro italien, Cimolai aussi, un autre italien. Il y a Juan Sebastian Molano aussi, qui a fait quelques places en ce début de saison. Et puis pour les sprints plus difficiles en côte, il y a des coureurs comme Enrico Battaglin, qui avait gagné l'étape l'an dernier, Jay McCarthy, Ryan Gibbons. Voilà, on a quand même un beau plateau d'hommes rapides. Et
C'est
j'ai même
vrai
manqué pas
que là,
cité tout le monde
quand tu listes
pour
tout le
un
monde, là, on se
voilà.
rend compte que c'est vrai que ça fait déjà un plateau assez conséquent.
Ouais, on a connu des top 10 au sprint au Giro beaucoup plus faméliques que ce qu'on va avoir cette année, hein. Des
Je
fois c'est un
crois,
peu
ouais.
même Kringios, on peut le dire. Et là cette année franchement il y a un beau beau plateau.
Ouais. Très bien. Écoutez, c'est difficile après voilà, de parler de tout le monde, hein. Il y a beaucoup de coureurs qu'on n'a pas cités qui risquent de se retrouver peut-être entre la place de 5 et 10 au classement général. Ça ne veut pas dire que forcément on ne les avait pas vus, ça veut surtout dire qu'on n'a pas le temps d'aborder voilà, tout. Il y a des équipes qui viennent avec des équipiers solides qui peuvent se révéler si jamais leur leader d'ailleurs se perd en cours, se trouve en cours de route, hein. Voilà, on peut avoir des petites surprises comme ça. On essaiera d'aborder ça de toute façon au fur et à mesure de l'évolution du Giro en faisant une émission principalement lors des jours de repos. Donc voilà, on aura à chaque fois le temps de la pause du Giro pour faire le point. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voulez aborder là-dessus avant qu'on passe et qu'on conclue avec les chances françaises sur le Giro? Je pense qu'on a fait le tour, très bien. Eh bien, on va reprendre là-dessus. Donc, Théo, tu voulais peut-être parler de certains coureurs français que tu as plus à cœur que d'autres, on va dire.
Bah, je vais pas forcément parler de certains en pluriel parce que vu la faiblesse du plateau français,
Bah,
si je
il n'y a
fais
pas beaucoup
ça,
de
je
coureurs,
risque
hein.
de
Je crois qu'ils sont 10 en,
m'accaparer,
10,
mais
10 ou 11 en tout, c'est ça?
quelque chose comme ça, ouais.
Ouais. À peine.
Je voulais parler de Valentin Madouas. C'est un peu la surprise. On attend bien sûr rien pour le classement général. Il va falloir qu'il tienne les 3 semaines. Mais après, la première semaine peut lui convenir, justement, avec des étapes un peu pour puncher ou pour classic man, et surtout ben lui-même dit vouloir se tester en haute montagne, alors pourquoi pas sur une étape essayer de suivre les meilleurs, mais bien sûr surtout enfin il aura intérêt à quand même être présent dans les groupes de 40 en montagne parce que sinon il n'y aura personne de son équipe, parce qu'il va pas pouvoir compter sur beaucoup d'aide. Le seul peut-être dans son équipe qui peut l'aider et encore c'est Tobias Ludvigsson, sinon dans la FDJ c'est tout pour Arnaud Démare. Peut-être que
Ouais.
quelqu'un veut en parler de Démare.
On l'a déjà cité effectivement pour les favoris au sprint. Je sais pas si tu veux enchaîner là-dessus, peut-être Greg.
Non, bon, enfin, on verra bien. J'espère pour lui que voilà, parce qu'il y a un début d'année difficile, hein, puisqu'il n'a pas de victoire, je
Toujours
crois,
pas de
cette année
victoire.
encore. Toujours pas de victoire, donc c'est un peu compliqué pour lui. Et c'est pas non plus facile hein, de faire le Giro, surtout pour un sprinter. On voit, il y a quelques étapes, mais après, ça veut dire aussi souffrir jusqu'au bout et certaines étapes galères avec ses coéquipiers à faire groupe et tout. Donc voilà, ça sera à suivre. Parce qu'il y a un gros plateau, comme l'a dit, et Viviani, c'est quand même costaud. Ewan, etc. Ça sera vraiment
Gaviria,
compliqué pour lui.
Ackermann actuellement a l'air très en forme.
Et pour les sprinters, on l'a dit, ça sera quand même un peu un Giro galère.
Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est son troisième Giro. Et il a jamais gagné d'étape. Donc bon. Voilà.
Alors Charles, est-ce que toi tu considères que Arnaud Démare est la meilleure chance française pour remporter une étape finalement sur ce Giro? Ou ça pourrait se la jouer autrement, on va dire un coup de baroudeur comme un Madouas pourrait le tenter, quelque chose comme ou un galopin aussi.
Ouais, je pense que la meilleure chance de victoire française sur le Giro elle se situe plutôt du côté d'AG2R, la mondiale, en fait, parce que vous l'avez dit en début d'émission, les sprints, il n'y en aura pas beaucoup. Et malheureusement pour Arnaud Démare, cette saison, il n'a pas forcément été rassurant, puisque je crois qu'il n'a pas encore levé les bras. Donc je verrais plus le duo Galopin-Villermoz, si jamais ils ont la chance, enfin plutôt la bonne idée de ne pas jouer le classement général, ils pourraient se glisser dans les échappées. Ils ont tous les deux une pointe de vitesse intéressante en plus, donc pourquoi pas essayer de régler un petit groupe pour les étapes de baroudeur.
Je
Lors
pense que la
des étapes
première
de
semaine,
baroudeur, pardon.
ouais. Pardon, non, mais la première semaine, enfin justement, moi je pense qu'ils visent surtout les étapes de la première semaine. Hein, je pense qu'ils ont vraiment leur carte à jouer, notamment un galopin qu'on n'a pas beaucoup vu encore depuis un moment. Il a vraiment de belles occasions de briller.
Est-ce que Villermoz ne venait pas au départ pour un classement général? J'ai un doute, hein. Il me semble que
Je crois
s'il y avait.
qu'il a un peu l'ambition, hein, ouais. Après, est-ce que...
Voilà.
Bon, c'est le Giro parfois, c'est Charles qui disait ça tout à l'heure, hors antenne, je crois, parfois de la 8e à la 12e place, c'est un peu YOLO, donc pourquoi pas Villermoz dans ces eaux-là, mais c'est vrai que sur le parcours, c'est très haute montagne, peut-être un peu trop pour un Villermoz quand même, quoi.
Ouais.
Mais et concernant Arnaud Démare, il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est qu'il fait pas le Tour de France. Et que du coup, c'est vraiment un Giro où il a, enfin c'est un gros objectif de la saison pour lui quoi. Il fait pas ça juste en prélude du Tour quoi.
Bah, la chance d'Arnaud Démare, du coup, s'il fait pas le Tour de France, c'est que peut-être certains sprinteurs ne seront pas là sur cette étape du mercredi ou du jeudi, je sais plus, en 3e semaine. Et là, peut-être qu'il pourrait avoir sa chance.
Mais ça veut
Alors,
dire
il y
qu'il
en a
faut qu'il
d'autres
passe
qui
la
seraient prêts
16e
pour ça.
étape, quoi.
Et
Ouais.
franchement.
Je voulais vous poser la question pour Arnaud Démare, justement, parce que j'ai remarqué une bizarrerie un peu pour son calendrier, on va dire, parce que il a très peu couru là pour l'instant avant le Giro. Il se la joue un peu Tom Dumoulin lui aussi, c'est ça? On dirait non, son programme est très light.
Bah, il a fait les
ouais,
classiques,
très
non,
light,
quand même.
Il a fait les classiques,
oui.
il a coupé après les
Ça
classiques, quoi.
commence à dater, les
Après,
classiques,
Roubaix,
maintenant.
il a coupé, ouais.
Voilà, ça commence à dater depuis Roubaix.
Ouais,
Ça fera
bah...
un
Après,
mois sans courir. Ça fera un
on
mois
n'a
sans
pas
courir.
bossé le sujet avant, mais on n'a pas vu Gaviria de trop non plus, je crois, c'est bon.
Ouais, ils ont
Oui,
tous un
oui. C'est
peu...
vrai qu'il y en a certains qui ont été assez discrets depuis,
Viviani,
alors...
Viviani, ça fait un moment aussi, ouais.
Mais
C'est
en tout
vrai.
cas, bon, pour Agroupama, il y a intérêt à ce que Démare gagne parce que toute l'équipe est tournée autour de lui. Voilà, Guarneri, Konovalovas, Le Gac, Scottson, Cinquedame.
Ça y
C'est
est.
peut-être même un peu exagéré, quoi.
Ils viennent pas pour aider Madouas dans une échappée ou
Oui,
dans une
Madouas, il y aura
étape
une
un peu.
question. Je ne sais pas, j'ai pas lu d'interview du staff de la FDJ, mais peut-être qu'on a prévu de laisser seulement Madouas 15 jours sur le Giro pour sa découverte parce que ça sera son premier grand tour.
Oui.
Je crois que c'est prévu, oui, qu'il aille pas au bout.
Ok.
Hein.
D'accord. Très
Juste
bien.
un mot pour dire que le seul
Oui.
Français qui n'est ni chez AG2R ni chez Groupama FDJ qui va disputer le Giro est Florian Sénéchal. Et qu'il a montré des choses assez sympathiques en ce début de saison. Donc pourquoi pas, même s'il aura sans doute à bosser pour Viviani, notamment, chez De Koninck. Mais voilà, c'est pas impossible qu'il ait sa chance aussi une fois ou deux dans
Bah,
une échappée, par exemple.
il y a aussi Sivakov en français, mais bon,
Ah
ça
oui, non mais là.
c'est un autre débat.
C'est quand il gagne qu'il devient un peu plus sophisté en général.
C'est ça, on a remarqué. Oui. Très bien. Bon, bah
Pour certains.
écoutez, je pense que c'est pas mal. En tout cas, pour aujourd'hui, il me semble qu'on a à peu près fait le tour de la plupart des sujets qu'on voulait aborder. Les favoris à la fois pour le classement général, pour les sprints. Bon, on n'a peut-être pas parlé des jeunes à découvrir, mais enfin, on a quand même cité pas mal de coureurs. Voilà, ça me paraît très bien et je pense que là c'est le moment de conclure. Alors, à moins que vous ayez encore une dernière
Les
chose à
pronos.
vouloir
Attendez, on
rajouter,
va pas finir une émission sans pronos quand même.
tu veux donner un prono, tu veux donner le podium, tu veux dire
Ah ouais, je me
carrément
sens
ou
pas
le
drôle.
vainqueur? Parce que
Bah le podium. Quitte à se planter, autant se planter complètement.
voilà, très bien. Alors, je t'en prie, Charles, commence.
Alors moi, je dis Louis Mentiès devant
Ah.
Carlos Betancourt.
Ah oui, alors là, oui,
Non, je
tu.
plaisante. Je vais rester sur Primoz Roglic parce que comme je l'ai annoncé au début, sinon ça fait un peu bizarre. En second, je vais donner Tom Dumoulin que je vois bien très très régulier comme d'hab. Et ensuite, allez Vincenzo Nibali.
Ok. Baptiste?
Moi, je vais dire Simon Yates devant Vincenzo Nibali et Tom Dumoulin. Et je vois un abandon prématuré de Primoz Roglic.
Très bien, Théo.
Moi, je suis nul en podium, donc je vais même pas essayer. Hein. Je vous fais pas
On
mon
met nous aussi,
historique.
Théo, donc t'inquiète. Hein.
Mais
Alors, sinon, juste le
j'ai un
vainqueur, si tu veux.
petit, une petite pré, un pressentiment, même plus une vision. Ilnur Zakarin va terminer 9e.
Ah,
Pas
oui.
plus, pas moins. Et je sens aussi qu'il n'y aura pas de Dimension Data dans les 50 premiers parce que O'Connor, avec la poisse qu'il a, il n'ira pas au bout des 3 semaines. Voilà.
Il a
Et
beaucoup chuté
rappelle-nous
cette
ton
saison.
prono Katusha de l'an dernier sur
Ben, je
Goncalves.
pensais qu'il n'y aurait pas de Katusha dans les 40 premiers et Gunther Svens a donné sa vie. Il a vendu son âme au diable pour terminer 14e, je crois.
C'est ça.
Même
Mais
devant Thibaut Pinot avant qu'il
quand tu dis
abandonne.
qu'il
Donc
donnait sa
voilà.
vie, c'était vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que pendant tout le
Ah, c'était
parcours,
un peu ridicule, ouais.
il a couru comme si cette 14e place valait la première. Et on le revoyait remonter au classement de la 22e à la 20e et ainsi de suite.
Ouais, bon,
S'échapper
même une fois, on l'a vu attaquer le groupe des favoris
pour
pour prendre
gagner
de
des
l'avance en plaine.
secondes,
Enfin,
mais de
j'enroule.
manière un peu. Voilà,
Je
c'était.
pense qu'il avait écouté notre émission et que tu l'avais
C'est
taché, Théo, c'est pour
ça.
ça.
À croire qu'il mettait un malin plaisir, effectivement, à vouloir te contredire. C'était
À croire qu'on ne
croustillant.
fâche pas que les attachés de presse, finalement, mais peut-être aussi d'autres
Croustillant.
personnes.
Pardon, alors qui doit donner encore son podium là? Je suis perdu.
Mais reste comme
Charles.
moi.
Il reste que toi, Greg.
Ben,
Et
j'ai dit
Max.
Lopez, alors je vais dire Lopez, même si je crois pas trop. Et puis je vais dire.
Comment ça, t'as surjoué ton favori du départ?
Ah là là,
Mais
les
c'est pour le
coulisses sont révélées.
romantisme, c'est le grimpeur colombien qui fait rêver tout le monde, qui renverse la table, c'est ça. Et devant Roglic et Yates.
D'accord.
Et toi, Max, allez.
Ah,
Nibali.
j'ai failli donner le même que Charles. Ah, Nibali, je l'ai défendu, mais je l'ai défendu en disant que je le voyais très bien sur le podium, donc, mais pas forcément vainqueur. Mais du coup, je vais mettre. Je vais prendre aussi Simon Yates. Je ne sais pas pourquoi cette année.